Bonjour à tous et à toutes, frères et sœurs. Je vous souhaite une très agréable journée de sabbat. Jésus avait plusieurs styles d'enseignement. Il avait plusieurs façons d'enseigner ses élèves, ses disciples, ou encore les fidèles rassemblés à la synagogue, le jour du sabbat, dans lequel il se rendait, les synagogues, bien sûr, à chaque jour de sabbat. C'était sa coutume. Et même parfois, lorsque Jésus s'adressait à la foule, ou même lorsqu'il s'adressait simplement à une seule personne à la maison, il prêchait de façon très différente, adaptée. Dans le sermon sur la montagne, par exemple, il prêche directement la doctrine de Dieu. Il explique la différence entre l'observance physique et l'observance spirituelle. Dans sa lecture du prophète Ésaïe à la synagogue, il révèle sa propre nature divine. Et dans les paraboles, il frappe littéralement son auditoire, par des images évocatrices qui provoquent évidemment la réflexion. C'est le but qui pousse les gens à lui poser des questions. Et les disciples ont posé beaucoup de questions à Jésus. Par exemple, la parabole du figuier stérile est très particulière. Dans l'Évangile selon Marc, chapitre 11, versets 12 à 14, et en particulier au verset 18, il nous est dit que la foule, précisément, était frappée de sa doctrine. Jésus-Christ utilisait des méthodes d'enseignement très puissantes. Et les pharisiens, les juifs de son époque, de son temps, les principaux des juifs, plus exactement cette catégorie religieuse, ils étaient extrêmement jaloux de son succès au point qu'ils voulaient continuellement trouver un moyen de ruiner sa réputation, de lui causer des problèmes, de l'accuser, pour se débarrasser de lui et finalement jusqu'au point où il voulait le tuer. C'est clairement rapporté dans les évangiles. Mais revenons sur la parabole du figuier stérile. Nous savons qu'à la fin de cette histoire, le figuier tombe desséché. Il devient complètement desséché et les disciples sont littéralement estomaqués de voir ce que Jésus vient de faire. Le but premier de cette parabole était de leur montrer que, Jésus voulait leur montrer que par la foi, ils pouvaient accomplir des miracles. Ils pouvaient accomplir des miracles. Mais il y a bien d'autres leçons, bien sûr, derrière cet exemple frappant. Ce n'était pas, pour ce figuier, la saison des figues. Alors on peut se demander pourquoi est-ce que Jésus a provoqué le fait qu'il, tout d'un coup, il est devenu desséché. Il y a d'autres leçons. Rappelez-vous, Jésus a dit à plusieurs reprises qu'il viendra dans son second avènement au moment où personne ne l'attend, au moment où personne ne pense que c'est le moment. Et que se passe-t-il? Le figuier n'a que des feuilles, ici, dans l'exemple physique. Donc, l'autre leçon qui surgit ici en filigrane, c'est que les fruits spirituels, eh bien, nous devons les porter constamment et quelle que soit la saison. Quelle que soit la saison spirituelle, dès que nous savons que nous devons porter du fruit, il nous faut le faire. Dieu nous a donné son Esprit Saint. Lorsque nous nous sommes convertis, que nous nous sommes fait baptiser par le ministère, que nous avons été baptisés par immersion, nous avons reçu l'imposition des mains, nous devons alors porter du fruit. Ce produit que nous pouvons porter, que nous devons porter, comprend plusieurs variétés de fruits, de légumes, de céréales chez le fermier. Je parle ici du fruit physique. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on parle du fruit de l'esprit, on peut parler du fruit de la récolte de Jésus ou bien des différents fruits qui composent ce fruit de la récolte. Il y a effectivement, dans Galates chapitre 5, versets 22 à 23, la liste du fruit de l'esprit ou des fruits de l'esprit selon cinq différentes versions de la Bible traduites en français. Donc l'un ou l'autre, c'est la même chose. Ce n'est pas lorsque nous décidons, nous, de porter du fruit dans un an ou deux. La saison de la récolte pour des fruits physiques, c'est une chose, mais la saison de la récolte pour Jésus, c'est lorsque Jésus arrive, autrement dit, à un moment que nous ne connaissons pas. C'est la raison pour laquelle notre fruit doit être présent dès maintenant, dès notre conversion. Dans la parabole du figuier en bourgeon, une autre parabole concernant un figuier, elle se trouve dans le sermon sur le mont des Oliviers, dans Matthieu chapitre 24 ou dans Marc chapitre 13, précisément au verset 28. Marc 13, 28. Jésus nous montre qu'il est possible de voir que la saison approche en regardant les figuiers qui portent du fruit, qui ont des fleurs. Les branches deviennent tendres, les feuilles poussent et on commence à voir les choses blanchir, les feuilles, les fleurs apparaissent, l'été est proche, ce qui veut dire que, spirituellement, le maître est proche, lui aussi, et avec lui, sa réclamation du fruit de la récolte. En conséquence, nous ne devons pas rester stériles, il nous faut porter du fruit, nous devons porter du fruit. Dans sa seconde épître, l'apôtre Pierre, au chapitre 1, au verset 8, nous rappelle que si les vertus chrétiennes sont en vous, écrit-il, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront pas oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 8. Nous voyons ici l'opposé du figuier stérile. Il s'agit du figuier, dans la parabole précédente et également dans l'exemple que Pierre cite, nous ne devons pas rester oisifs, nous devons ne pas être stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans une autre parabole célèbre, la parabole du semeur, dans Matthieu chapitre 13, il nous est dit déjà que seule la semence qui tombe dans la bonne terre va produire du fruit et peut réellement porter du fruit, durablement. Dans la parabole du figuier stérile, il nous est dit, au contraire, qu'un arbre pourrait ne pas porter de fruit. Quand la saison choisie par le maître, encore une fois, est venue, bien que ce ne soit pas la saison choisie par le figuier pour le faire. Et le résultat est tragique. Donc, il n'y aura pas de fruit, dans la parabole du figuier desséché, il n'y aura pas de fruit produit plus jamais, nous est-il dit, par cet arbre. C'est frappant. Jésus avait vraiment un style d'enseignement dans ses paraboles et dans ses images et dans ce qu'il faisait, dans ses démonstrations. Il avait un style extrêmement frappant. Il voulait montrer qu'il est possible pour un chrétien aussi, pour un arbre spirituel chrétien, de ne pas porter de fruits. C'est possible. Donc faisons attention à ces choses. Je pense que c'est le cas, c'est ce qu'il voulait montrer aussi. Donc, en tant que chrétiens, nous devons nous assurer, comme le dit l'apôtre Pierre, que nous ne sommes pas oisifs, de sorte que nous ne soyons pas stériles. Nous produisons ce qu'il faut pour connaître davantage Jésus-Christ, pour avoir cette relation avec Dieu, pour lui parler, puis ensuite pour écouter sa réponse. Sa réponse peut venir rapidement. Pourtant, lorsque nous avançons en âge, nous avons tendance, nous, à ralentir, tout doucement. Mais ce n'est pas tout. Il y a mieux. La vie nous apprend aussi, donc, je le disais, à ralentir, à prendre le temps d'écouter, à prendre aussi le temps d'attendre. Écouter ce que Dieu veut nous dire. Cela peut venir tout de suite, la réponse, dans sa parole. La réponse est là, nous la lisons, nous comprenons mieux ce que nous devons faire. Et puis, parfois, nous avons des interrogations qui demandent plus de temps. Il nous faut attendre, il nous faut patienter. La réponse viendra, mais elle viendra un peu plus tard. Je dis un peu plus tard, vous savez, notre vie est comme un souffle. La vie est courte, elle est tellement courte, en fait, devant l'éternité et devant la gloire éternelle du royaume de Dieu. Prenons conscience de cela. Comprenons que cette vie n'est pas, évidemment, nous le savons bien, cette vie n'est pas l'aboutissement de tout. Nous avons des projets physiques. Nous souhaiterions accomplir telle ou telle chose dans notre vie. Mais la vie est tellement courte et il y a tellement mieux après. Il nous faut donc, pour le moment, nous concentrer sur ce que nous devons faire et qui est important, porter du fruit spirituel, dès maintenant. Lorsque nous parlons d'arbres fruitiers, en général nous parlons d'arbres à fruits comestibles, bien qu'il existe d'autres arbres à fruits et à larges feuilles, comme par exemple le chêne porte d'autres fruits, il porte des glands qui ne sont pas comestibles. Le châtaignier, ou plus exactement le marronnier, porte des marrons d'Inde. L'églantier porte du poil à gratter, etc., etc. Il y a toutes sortes de fruits qui sont comestibles ou non comestibles. Mais il existe des raisons dans la nature, de toute façon, pour lesquelles un arbre à fruits porte plus de fruits qu'un autre ou moins de fruits qu'un autre. Le manque de lumière, le manque d'eau sont des raisons pour lesquelles un arbre fruitier ne portera pas autant de fruits. Par exemple, le manque d'eau ou le manque de lumière, oui, le manque de lumière, c'est l'illustration en quelque sorte que nous avons besoin de la parole de Dieu. Et cela nous rappelle le psaume 119, verset 105, qui dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». Donc, comme un arbre fruitier a besoin de lumière, nous avons besoin de la lumière de Dieu, de la lumière de la parole de Dieu. À la lecture de la Bible, à la lecture de la parole de Dieu, les choses deviennent plus claires dans nos vies. Nous voyons notre feuille de route, nous voyons notre devoir, là, sous notre nez. Et ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué, l'Esprit de Dieu est là pour nous aider. Le sermon sur la montagne est clair comme de l'eau de roche, très franchement. Il parle à un adolescent qui n'est pas encore converti même. Il parle à un philosophe, il parle à un homme politique. Un arbre a besoin d'eau. L'eau pure de l'Esprit-Saint influence ceux que Dieu appelle et il les pousse à se purifier. Il les pousse à se repentir, à changer de conduite. L'arbre a besoin d'eau pendant toute sa vie. Donc s'il veut produire du fruit, parallèlement, le chrétien doit se purifier lui aussi par l'eau du Saint-Esprit. Il doit changer ses pensées et demander à Dieu plus de Saint-Esprit. Des arbres produisent plus de fruits ou moins de fruits aussi selon qu'ils ont reçu une bonne terre, selon qu'ils ont reçu les bons nutriments. Et cela nous rappelle la parabole du figuier au milieu de la vigne, encore une autre parabole qui parle d'un figuier, dans Luc chapitre 13, versets 6 à 9. Luc chapitre 13, versets 6 à 9, reportons-nous-y. Et ici, nous voyons le maître de la vigne qui parle à son vigneron. Luc chapitre 13, le verset, et commençons au verset 6. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Donc même chose que dans le cas de le figuier desséché. Du figuier desséché. Mais ici, il dit au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ?» Et le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour. » Et j'y mettrai du fumier, des nutriments. Peut-être, à l'avenir, donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Donc pendant 3 ans, le figuier n'a rien produit. Mais le maître est miséricordieux. On voit qu'il n'a pas desséché le figuier tout de suite. Et l'ouvrier, vigneron, espère encore et ajoute des nutriments. Il s'occupe de cet arbre qui est appauvri, qui ne produit rien. Et en effet, un arbre isolé, si personne ne s'occupe de lui, il va moins produire. Comment s'occuper d'un arbre isolé, selon les botanistes? Eh bien, il faut, disent-ils, enlever les branches qui ne produisent pas. Il faut tailler les branches qui produisent peu, de sorte que les branches qui portent du fruit puissent produire plus. Ces producteurs d'arbres fruitiers pratiquent souvent des méthodes d'élagage, en effet, pour encourager la pousse du bois de fructification, du bois fruitier. Ils savent comment gérer ces choses. Et quand un arbre fruitier, par contre, est livré à lui-même, il faut bien voir qu'il y a, il y aura beaucoup de pousse, il y aura beaucoup de branches qui vont porter moins de fruits ou qui ne vont pas porter de fruits. Au détriment de ce bois fruitier, un bois meilleur, qui, lui, porte du fruit. Dans Jean chapitre 15, versets 1 à 2, c'est un, Ce sont des versets que nous lisons chaque année, notamment lors de la cérémonie de la Pâque. Jean chapitre 15, au verset, tout début du chapitre, Jean chapitre 15, verset 1. Jésus, ici, décline son identité. Il dit « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron ». Il utilise cette image, précisément. « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il l'ébonde, autrement dit, il l'élague, il le coupe, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Et il dit « Déjà vous êtes purs à cause de cette parole que je vous ai annoncée. » Et il existe aussi d'autres causes naturelles qui peuvent porter atteinte à la production normale des fruits de nos jours. La Bible parle plutôt du voleur qui vient et qui dérobe, ou encore du diable, du malin, qui cherche à dévorer, qui cherche à enlever la bonne semence. C'est un prédateur, c'est un destructeur. Et en ce qui concerne les arbres, les vignerons, les fermiers savent bien qu'ils doivent lutter contre toutes sortes de causes nuisibles, les ravageurs nuisibles, les maladies, les insectes, les rongeurs et d'autres prédateurs encore. C'est indispensable. Il faut défendre les arbres fruitiers s'ils veulent obtenir une production et une récolte. Pourquoi ces fléaux, effectivement, peuvent affaiblir l'arbre, ils peuvent aussi directement attaquer le fruit, ils peuvent tuer l'arbre même. Là encore, il s'agit de s'occuper de l'arbre fruitier. Et par exemple, eh bien, dans le cas des arbres fruitiers, les fermiers ont tendance, qui pratiquent l'agriculture biologique, ont plutôt tendance à entourer les arbres de plantes aromatiques qui vont décourager les insectes de venir attaquer les fruits des arbres ou même l'arbre lui-même. Les insectes nuisibles ne viendront pas. Et ils peuvent et ils veulent aussi installer des barrières contre les rongeurs, des pièges ou même des haies pour décourager les chevreuils. Ce sont toutes sortes de moyens protecteurs que les fermiers mettent autour des arbres fruitiers pour leur permettre de produire et d'être protégés des nuisibles. Pour le chrétien qui veut porter du fruit, où sont les nuisibles ? Où sont les nuisibles ? Il y a des influences extérieures mauvaises qui peuvent porter atteinte aux fruits spirituels que nous portons, qui peuvent entrer par effraction, détruire dans notre esprit l'œuvre de Dieu en chacun d'entre nous, qui peuvent nous diviser en tant que famille chrétienne. Donc, premièrement, restons unis, quoi qu'il en coûte. Soyons en garde contre le monde des ténèbres. Soyons en garde contre les séductions, contre les fausses doctrines. Jésus nous a instruits, il nous a enseigné la prière modèle dans laquelle il nous dit, il dit ceci, « Ne nous induis pas en tentation dans la prière à Dieu, mais, prie-t-il, délivre-nous du malin. » Délivre-nous du malin. Nous devons prier pour la délivrance contre de toutes les mauvaises influences qui pourraient compromettre le fruit de l'Esprit qui est porté en nous. Il est vrai que Dieu ne tente personne. Bien au contraire, Dieu veut nous délivrer, il peut nous délivrer de la tentation de faire le mal. Il faut lui demander son aide. Il peut faire en sorte que nous ne soyons pas exposés à la tentation ou au désir de faire le mal, ou même de répondre au mal par le mal. Toutes ces choses sont néfastes et nous serions en quelque sorte, si nous faisions cela, nous serions livrés à ce que le diable, donc l'ennemi, l'adversaire de l'humanité, voudrait nous voir faire. Évidemment, afin de détruire, encore une fois, cette œuvre de Dieu qui est faite en nous, dans l'esprit humain, grâce au Saint-Esprit. Il existe, dans la nature, un phénomène extraordinaire qui s'appelle la pollinisation. C'est ce processus sans lequel le fruit ne peut pas être produit. Ce principe, c'est qu'il ne peut y avoir donc de production de fruits avant la pollinisation des fleurs. Qu'est-ce que la pollinisation ? C'est le transport des graines de pollen d'une fleur vers une autre. Et c'est indispensable pour qu'il y ait production de fruits. Alors ce transport a lieu par le moyen de différents vecteurs. Vous avez le vent, vous avez l'eau de pluie, vous avez les oiseaux, les insectes et bien sûr, les abeilles, évidemment. Plus la distance parcourue par le pollen est courte, plus l'opération de pollinisation aura des chances de succès. Et puis donc après cette pollinisation, ce transport de pollen d'une fleur à l'autre, si les conditions restent favorables, eh bien un embryon commence à se développer pour finalement progresser, pour évoluer vers la maturité du fruit. Eh bien parallèlement, dans l'Église, nos contacts entre frères et sœurs sont indispensables. Nous avons besoin de nous retrouver ensemble. Nous sommes le corps de Jésus-Christ. Nous sommes unis et réunis dans les mêmes congrégations. Mais quelquefois, nous pouvons être isolés. J'étais moi-même pendant plusieurs années isolé. Mais cependant, heureusement, nous avons au XXIe siècle le moyen de communiquer avec d'autres congrégations, avec d'autres frères et sœurs, avec nos pasteurs. Nous avons la possibilité aussi de recevoir des visites. Donc si nous sommes isolés, cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas porter du fruit. Nous devons effectivement rester les uns proches des autres par tous les moyens possibles. Donc rester évidemment en contact localement, il nous faut absolument rejoindre nos frères dans nos congrégations. Ils portent du fruit, ils nous encouragent eux-mêmes à porter du fruit. Et dans 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 1, 1 Corinthiens 11, 1, l'apôtre Paul n'hésite pas à écrire aux Corinthiens ces mots. Il leur dit « soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». Autrement dit, lorsque nous imitons Paul, nous imitons Jésus-Christ. Et là, il le dit très clairement. Si nous restons proches de Dieu par la prière, par l'étude et la lecture de la Bible et par le jeûne, nous saurons reconnaître les bons exemples à suivre dans l'Église. Nous devons donc porter du fruit. Mais quel genre de fruit ? Quel genre de fruit ? Par quel fruit nous faudrait-il commencer ? Vous avez certainement déjà votre réponse toute prête, et si c'est le cas, c'est une bonne chose. Par exemple, je suis sûr que beaucoup d'entre vous pensent aux fruits de l'esprit, pensent au premier d'entre eux, l'amour. Puis après, vous avez la joie, la paix, dans Galates chapitre 5, verset 22. Donc le premier de ces fruits, c'est l'amour. C'est tout à fait louable, c'est une bonne chose que de penser à l'amour. On peut très bien décider d'aimer tout d'abord, et pourtant, ce n'est pas le premier fruit que l'apôtre Pierre cite dans les vertus chrétiennes. Rappelez-vous, la deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 10, ou même verset 6 déjà, rappelez-vous, il dit « faites tous vos efforts pour joindre ». Par quoi commence-t-il ? Il y en a toute une série. Il commence par « pour joindre à votre foi la vertu ». Donc la fondation, c'est la foi auquel on vient ajouter en deuxième instance la vertu. Donc pour Pierre, la première des vertus à rechercher, c'est la foi. Pour l'apôtre Paul, il cite l'amour. Il ne dit pas que c'est la première à produire, mais il cite l'amour en premier. Donc vous voyez, deux perspectives différentes. Pierre commence, lui, par la foi. Mais allons plutôt pour voir ce que nous devons porter comme fruit en tout premier, en priorité dans nos vies chrétiennes. Allons dans Matthieu chapitre 6, verset 33. Matthieu chapitre 6, verset 33, c'est le thème des camps de jeûnes dans l'Église cette année. Matthieu chapitre 6, verset 33, un verset que nous devons connaître, qui dit ceci, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. » Et toutes ces choses, il parle des choses physiques que nous recherchons dans la vie, qui sont des choses tout à fait normales, toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, une question de priorité. Il nous faut tout d'abord rechercher le royaume et la justice de Dieu. Donc il y a beaucoup de matière à méditation dans ce verset. Ce n'est pas un hasard s'il a été choisi comme thème des camps de jeûne dans l'Église en 2025. Mais que veut dire chercher premièrement le royaume ? Déjà, première chose, qu'est-ce que cela veut dire, chercher premièrement le royaume ? Nous savons bien que le royaume des cieux est aux cieux pour le moment. Il n'est pas encore instauré sur terre. Donc comment pourrions-nous le rechercher? Eh bien, continuons la lecture. Il est dit plus loin, il est mentionné, et la justice de Dieu. Et la justice de Dieu. C'est précisément ce qui représente le royaume de Dieu. La justice de Dieu. Pour nous, ici. En tant que chrétiens, nous sommes les ambassadeurs pour Christ. Nous sommes les ambassadeurs d'un roi et d'une nation qui est actuellement aux cieux, qui est éloignée de la terre et qui s'appelle le royaume de Dieu. Donc comment un ambassadeur peut-il représenter le mieux son chef d'État, son souverain? Que fait-il? Eh bien, devant la nation qui est là, la nation étrangère, en quelque sorte, il montre l'exemple juste, eh bien, dans le cas du royaume de Dieu, l'exemple de la justice de Dieu. L'exemple de la justice de Dieu. C'est la raison pour laquelle, nous chrétiens, cette justice de Dieu doit être déjà présente en nous. Qui parle dans la Bible de la justice de Dieu? Qui parle dans la Bible à un roi pour lui dire qu'il doit être juste? Dans le livre de Daniel, au chapitre 4, il est question d'un dialogue entre le roi de Babylone, l'empereur Nabuchodonosor, ou dans la Bible de la nouvelle édition de Genève, il est dit Nebuchadnezzar, c'est la même chose, Nabuchodonosor, Nebuchadnezzar. Le roi Nebuchadnezzar avait fait un songe extraordinaire. Et donc dans le chapitre 4 du livre de Daniel, il est question du grand arbre, le grand arbre. Et dans ce songe de Nebuchadnezzar, Daniel va donner l'explication. Et puis il termine son explication, que vous retrouverez dans ce chapitre, de cette façon. Il dit, « C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire ?» Et il lui dit sans embâge ces mots, « Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice. » Alors il faut avoir de l'aplomb pour dire cela. Évidemment, la puissance de Dieu était en Daniel, qui pouvait parler à ce roi qui était, nous le savons, très cruel. Il pouvait, d'un claquement de doigts, décider de la mort de celui qui était devant lui. Eh bien, Daniel avait ses faveurs, évidemment, à cause de ses exploits qui sont, en fait, accrédités à Dieu, apportés au crédit de Dieu. Daniel avait les faveurs de Nabuchodonosor, de Nebuchadnezzar, et il pouvait ainsi l'écouter. Et Daniel pouvait continuer de parler. Il lui dit directement, « Mets un terme à tes péchés. » Pratique la justice. Et il dit, mets un terme à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux. Et conclut-il, ton bonheur pourra se prolonger. Une déclaration très audacieuse. Mais Nabuchodonosor a compris ces mots. En revanche, il ne les a pas mis en pratique. La suite de l'histoire nous le montre. Mais ici, dans ce cas, voilà ce que Dieu demande à l'empereur de Babylone. Il doit d'abord, lui, Nebuchadnezzar, porter du fruit de justice. Il aurait pu être question d'amour, de foi, de patience, de justice. Non, il est question uniquement ici de justice. La première chose, le conseil de Daniel, inspiré par Dieu, c'est d'abord de pratiquer la justice. Les péchés majeurs du roi se résumaient à travers un manque de justice. Alors, comment pratiquer la justice de Dieu? Daniel l'explique. Il ajoute « en usant de compassion envers les malheureux ». Voilà ce sur quoi le roi devait se concentrer. C'est ce qui se passait dans l'Empire. Il y avait un manque flagrant de justice envers les plus démunis, envers les plus pauvres. Cela rappelle un peu la conclusion du philosophe américain John Rawls, qui disait que la société la plus juste, c'est celle dans laquelle les plus pauvres ont une augmentation de capital. C'est-à-dire, ils augmentent leur richesse. Ils sont pauvres, mais l'année suivante, ils sont moins pauvres. Pour lui, les plus démunis qui suivent effectivement cette progression sociale montrent que cette société est la plus juste qui soit. Alors bien sûr, pour nous chrétiens, les choses vont quand même un peu plus loin. Il y a toute une dimension spirituelle. Nous savons bien que la société la plus juste a des exigences encore bien supérieures, plus élevées que cela. et donc notamment sur le plan spirituel et non pas seulement sur le plan matériel. Nous savons aussi que dans le millénium, dans les 1000 premières années du royaume de Dieu sur terre, oui, nous verrons une société juste. Nous verrons les plus pauvres effectivement augmenter leur capital, génération après génération. Nous verrons ces choses sous l'effet de leur mise en pratique de la justice familiale. Les habitants de la terre, pendant le millénium, apprendront à porter du fruit, pas seulement du fruit physique, mais du fruit spirituel, du fruit de justice, et la justice du royaume de Dieu qui sera enseignée, la justice de Dieu. Ils useront de compassion les uns envers les autres, et en particulier envers les plus malheureux, les plus démunis, les plus pauvres, ceux qui sont malades, ceux qui sont encore choqués après la terrible période qui précédera l'avènement de Jésus-Christ. Ils auront, ces gens-là, besoin évidemment de réconfort, de soutien, de solutions dans leur vie. Et voilà maintenant cette société qui va porter du fruit de justice. Toute la société, tous ensemble. Dans Luc chapitre 18, versets 1 à 8, Jésus mentionne une autre parabole, celle du juge inique. Luc chapitre 18, reportons-nous-y. Luc chapitre 18, et allons au verset au tout début. Verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Allons au verset 5. Nous voyons ici que c'est un juge qui effectivement ne fait pas justice à une femme, et cette femme crie, elle crie et elle littéralement elle lui casse les oreilles, elle demande justice. Et ici le juge unique dit ceci: quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Et le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard ?» Non, évidemment, Dieu est juste. Voilà la justice de Dieu expliquée. Il répond à ses élus qui crient à lui. Les chrétiens qui persévèrent fidèlement, il leur répond en leur faisant justice. Nous avons des difficultés. Nous avons des demandes à présenter à Dieu, des pétitions où nous aimerions être délivrés. Nous implorons son intervention dans nos vies ou dans la vie de nos familles, de nos frères et sœurs en Christ. Donc, quand on repense à Matthieu chapitre 6, verset 33, « Cherchez premièrement la justice du royaume et toutes ces choses vous seront données », nous comprenons que la justice de Dieu, c'est bien le premier fruit que nous devons porter. Nous devons rechercher la justice du royaume de Dieu. Nous ne sommes pas le roi Nebuchadnezzar ou un empereur, nous ne sommes pas des gens puissants, mais nous avons des familles. Donc, ils sont sous notre responsabilité. Ce sont nos citoyens, en quelque sorte. Ce sont nos familles. Nous devons prendre soin d'eux. Nous commençons par honorer nos parents. C'est le cinquième commandement. Nous les servons. Nous leur rendons la vie plus facile. Nous honorons aussi nos frères, nos sœurs dans nos familles, puis nos frères et sœurs en Christ aussi. Et puis nous honorons notre prochain. Nous essayons de rendre la vie plus facile à ceux qui nous entourent. Avec nos petits moyens, nous n'avons pas besoin d'être un roi pour commencer à porter du fruit de la justice de Dieu. Après cela, il y a d'autres fruits à porter. Le processus de fructification spirituelle continue. Nous avons d'autres missions. Il nous faut aussi porter d'autres fruits. Cela ne s'arrête pas là. Reportons-nous à Matthieu chapitre 3, verset 7. Matthieu chapitre 3, verset 7. Là, ce n'est pas Jésus, mais c'est Jean-Baptiste qui s'exprime et qui parle directement aux pharisiens, d'une façon très directe. Matthieu chapitre 3, verset 7. Il voit les pharisiens venir à lui pour le baptême ou peut-être pour observer ce qui se passe. Et il leur dit, Matthieu chapitre 3, verset 7, Il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? En effet, les pharisiens et les sadducéens se considéraient comme les enfants d'Abraham et en tant que tels, ils n'avaient pas besoin de repentance. Ils n'avaient pas besoin de se repentir, autrement dit de changer d'attitude et de rechercher le bon plaisir de Dieu. Non, pour eux, ils étaient déjà des gens arrivés, des gens qui n'avaient besoin de rien. Il leur dit, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Et il ajoute, produisez donc du fruit digne de la repentance, du repentir, du changement d'attitude. Ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car, Jean-Baptiste ajoute, je vous le déclare, de ces pierres-ci, et il montre des pierres sur le sol, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Donc il les remet à leur place, il leur dit clairement les choses. Les pharisiens, c'étaient les maîtres dans les synagogues, ils avaient le pouvoir religieux, et pour eux, il n'y avait pas de raison de s'inquiéter de l'avenir, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Leur pouvoir leur procurait en effet beaucoup de puissance, ils avaient plus d'argent, ils avaient plus de pouvoir, ils avaient plus de plaisir. Mais Jean leur dit, produisez donc du fruit digne de la repentance, changez d'attitude. Mais eux étaient pécheurs et ils ne s'en souciaient pas. Peu leur importait. Nous devons faire, nous-mêmes, nous devons faire attention à ces choses, nous devons nettoyer nos vies. Et c'est cela, porter du fruit du repentir. Jean continue, il dit ceci, verset 10. Matthieu chapitre 3, verset 10. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Donc la cognée, c'est une hache. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits, sera coupé et jeté au feu. Et il continue en disant, moi je vous baptise d'eau, pour vous amener à la repentance, au repentir, mais celui qui vient après moi, Jésus, est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Ici, nous voyons que, encore une fois, la différence entre le blé et la paille. En effet, dans le verset suivant, il dit, il a son vent, Jésus a son vent à la main, autrement dit son tamis, il nettoiera son air, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Donc le blé, lui, c'est le fruit de la récolte. La paille ne sert plus à rien. Elle ne sert plus à rien, elle est brûlée, elle ne porte pas de fruits. Dans sa seconde lettre aux Corinthiens, l'apôtre Paul leur fait part de sa satisfaction. Ils ont changé d'attitude. Voilà des gens qui, au contraire, ont changé d'attitude. Alors lisons ce qu'il leur écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 9. 2 Corinthiens, chapitre 7 et le verset 9. 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 9. Nous allons voir de quoi, un petit peu plus loin, de quoi ils devaient se repentir. Paul leur écrit, « Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, parce qu'il leur a dit la vérité, et ils avaient de quoi faire, il leur fallait changer d'attitude. Mais, dit-il, de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance, au repentir, car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. » Et il continue en disant, verset 10, « En effet, la tristesse de Dieu, la tristesse selon Dieu, produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. » Ce qui veut dire qu'on a bien fait. On a bien fait de changer d'attitude. On en voit le bénéfice, on en voit le fruit. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Notez bien, la tristesse selon Dieu produit un repentir qui conduit au salut, à la vie éternelle. Il s'agit de porter du fruit de repentir, du fruit de repentance. Il continue en disant, cette même tristesse, cette même tristesse, selon Dieu, voyez quel empressement elle a produit en vous, quelles excuses, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition. Vous avez démontré à tout point de vue que vous étiez pur dans cette affaire. Donc quelque chose de sincère. Ils avaient compris qu'ils faisaient mal, qu'ils ne faisaient pas plaisir à Dieu. Ils avaient ce désir de changer d'attitude. Donc nous avons vu que au début, la première chose à faire, il faut porter du fruit de justice, il faut se comporter bien à l'égard de ceux dont nous avons la charge, il faut prendre soin des malheureux, il faut prendre soin de nos familles, et puis il faut aussi porter du fruit de repentance pour plaire à Dieu, pour prendre aussi soin de soi-même. Les choses ne vont pas bien en nous, il y a des choses que nous devons changer. Donc tout cela peut avoir lieu effectivement en même temps. Il n'y a pas de raison de faire l'un sans l'autre, mais encore une fois, une question de priorité. Et nous allons voir pourquoi et ce qui fait la différence avec les gens que l'on appelle les païens ou encore ceux qui ne croient pas en Dieu, les athées ou les sceptiques. Pourquoi je dis cela ? Parce que nous voyons dans un premier temps des gens qui sont des pères de famille, qui prennent soin d'eux, qui prennent soin des leurs. Nous voyons une mère de famille qui prend soin de ses enfants. Mais cela, ce n'est pas réservé aux chrétiens. Nous voyons les mêmes choses dans le monde. Donc, les chrétiens font ces choses, mais les païens ne font-ils pas de même ? On pourrait se poser la question. On pourrait se le demander. Où est l'avantage du chrétien si le païen exerce la justice, déjà, de Dieu, peut-être sans le savoir, en prenant soin de ses familles ? Et puis, nous voyons aussi des gens qui se repentent, qui changent d'attitude, qui, dans le cas des Corinthiens, l'objet du péché, c'était quelqu'un qui, Paul le dit dans 1 Corinthiens 5:1, il leur dit, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche. C'est au point, une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. Donc là encore, on se dit, mais quel est l'avantage du chrétien ? Donc, les païens produisent pratiquement, on pourrait dire, du fruit de la repentance, parce que il ne faisait pas au moins ces péchés-là. Alors évidemment, le païen n'observe pas toute la loi de Dieu. Le chrétien le fait, notamment le sabbat, les fêtes de Dieu. Le païen également ne paye pas la dîme. Nous payons la dîme. Il paye ses impôts, mais il ne paye pas la dîme. Bref, il ne croit pas non plus en la doctrine de Dieu. Le Dieu d'Israël. Donc, il y a donc quelque chose de plus important. Il y a une autre catégorie de fruits qu'il nous faut porter, nous chrétiens, pour effectivement faire la différence, pour accomplir notre tâche et notre mission. Une fois que nous avons porté du fruit de justice en prenant soin des malheureux, une fois que, et notamment en prenant soin, pour commencer, de nos familles qui ont besoin d'aide, nous les honorons, nous sommes aimables avec eux, une fois que, également, nous nous tenons écartés des choses qui sont immorales. La plupart des incroyants le font également. En tout cas, des choses que les Corinthiens pratiquaient et que les païens, Paul le dit, ne pratiquaient pas. Une fois que nous avons fait ces choses, une fois que nous avons nettoyé nos vies, nous devons porter encore d'autres fruits. Nous devons faire la différence. Et c'est très important. En tant que chrétien, baptisé, porteur de ces premières choses, il nous faut aussi porter du fruit du Saint-Esprit. Nous avons au baptême par immersion, après l'imposition des mains, après le repentir, nous avons effectivement la possibilité et, de recevoir le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit agissant en nous, va nous donner la force de, et la possibilité de porter du fruit de l'Esprit. C'est ce que Galates nous dit. Donc l'épître de Paul, apôtre aux Galates, chapitre 5, verset 22, dit ceci. « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. » Et ajoute-t-il, « La loi n'est pas contre ces choses. » La loi n'est pas contre ces choses. Ces qualités, ces vertus spirituelles sont des fruits portés à maturité et ils s'harmonisent pleinement avec la loi sainte et bénéfique de Dieu, dans son intention spirituelle. Rendez-vous compte, si dans nos sociétés actuelles, les gens produisaient jour après jour ce genre d'attitude, sans trahir ces comportements, eh bien le gouvernement du pays verrait une paix civile inestimable s'installer. Il pourrait glaner effectivement les bénéfices d'une telle obéissance à travers la société. Eux-mêmes, les membres du gouvernement, seraient impliqués évidemment dans la recherche de l'honnêteté, souhaitons-le, du sens du sacrifice, du désir de servir humblement le peuple, et non plus dans la recherche du gain personnel de richesse, de pouvoir, de plaisir, au moyen de la corruption et du mensonge. Voilà pour la société ce qu'elle pourrait devenir avec le fruit de l'Esprit. Mais quant à nous, maintenant, nous, chrétiens, qui avons le Saint-Esprit, qui avons décidé de nous tourner vers Dieu, de nous repentir, de nous faire baptiser par immersion, de recevoir l'imposition des mains après le repentir donc, et le baptême, et de recevoir ainsi le Saint-Esprit de Dieu, nous avons cette puissance en nous. Nous avons la possibilité, enfin, de développer le fruit de l'Esprit. Ce sont des traits que Dieu possède et qu'il veut nous voir porter en tant que fruit. Porter un fruit de l'Esprit à maturité, un fruit délicieux, un fruit qui est pleinement mûr, qui est prêt à être récolté. Et pour cela, il nous faut marcher comme Jésus a marché. Il nous faut imiter Jésus. Il nous faut imiter l'exemple des apôtres qui eux-mêmes étaient imitateurs de Jésus. Nous devons penser comme eux, nous devons agir de plus en plus comme eux, ce qui est penser et agir comme Jésus, ou penser et agir comme notre Père céleste. Ils sont un et nous avons besoin de devenir un avec eux. C'est le fruit de l'Esprit qui nous aide dans ce sens, à produire du fruit de l'Esprit. En effet, sans le Saint-Esprit, sans la pleine maturité du fruit de l'Esprit, nous ne pourrions pas atteindre la production d'un fruit précisément mûr. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour produire un amour, une joie, une paix sincère, une maîtrise de soi complète. L'Esprit humain peut imiter ces choses, peut tâcher de ressembler à cela tout seul, sans l'Esprit de Dieu, mais il n'a pas la pleine possibilité de porter cette fructification à maturité. C'est cela qui fait la différence. Et c'est ce qui fait la différence entre le chrétien et l'incroyant, entre le fidèle et l'infidèle. Telle est la nature humaine. Mais telle est la nature humaine que nous devons combattre, y compris la nôtre, donc. Nous devons la vaincre. Nous devons porter le fruit de l'Esprit. Les gens finiront par remarquer d'ailleurs ces choses-là. Certes, parce que nous plaçons précisément notre confiance en Dieu, nous sommes patients, nous attendons la révélation de Jésus-Christ, nous restons confiants face aux épreuves, face aux difficultés. Il est vrai que certains pourraient nous tourner en ridicule, il est vrai qu'ils pourraient sourire, hausser les épaules devant ce qu'ils pensent être une certaine naïveté de notre part, et pourtant, d'autres ne manqueront pas d'en prendre note et peut-être même parfois de nous féliciter de notre bon comportement. Donc persévérons dans ces choses. Vous savez, les gens sont, pour la plupart, témoins de nos propos, ils sont témoins de notre comportement, ils en prennent note et ceux-ci finissent par transparaître. Le fruit de l'Esprit Saint est en fait une preuve que la voix de Dieu, que les enseignements de Dieu, sa vérité, qui est la vérité, tout cela, avec l'Esprit de Dieu, tous ces éléments réunis, sont porteurs de bons fruits, en chacun d'entre nous. La Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, possède près de 40 auteurs, 40 rédacteurs inspirés par l'Esprit de Dieu pour rédiger ce qu'ils ont écrit. Dieu savait ce qu'il faisait en dirigeant la rédaction de la Bible. Une somme biblique cohérente, complète, plus tranchante qu'une épée à double tranchant, pour distinguer le vrai du faux, pour distinguer, pour séparer littéralement l'obscurité de la lumière de Dieu, pour enseigner le bien et pour se garder du mal. Le monde suit les lignes de Satan. La société, l'humanité progresse sans le savoir dans cette direction fatale dans laquelle le bien enseigné par la Bible est considéré comme le mal et dans lequel le mal identifié par la Bible est considéré, après tout, comme une bonne chose. Le monde, dans sa grande majorité, ne sait pas distinguer le bien du mal. Il fait même le contraire de ce qu'il faut faire. Or, c'est l'ennemi de Dieu, c'est l'archange déchu Lucifer, dont le nom en hébreu est Elel, qui s'est fait l'ennemi de l'humanité, qui veut la détruire. Et il est en voie d'y parvenir, mais Dieu arrêtera sa main. Dieu ne permettra pas qu'il aille au-delà d'une certaine limite. Il a réussi, Satan, à enseigner ses propres voies de rébellion. Nous le voyons tous les jours. Ce monde est un monde de rébellion. Ce monde est un monde de révolte. Et nous en voyons aujourd'hui de plus en plus la pitoyable illustration. Nous voyons que la fin est proche. Ce n'est pas que je veuille donner du désespoir ou semer le désespoir, car il y a en fait un avenir brillant après une grande époque de difficultés. Pour le moment, l'époque actuelle touche à sa fin. Elle touche à sa fin. Il y aura une fin difficile, avec de la destruction, avec des souffrances. Mais nous avons de l'espoir. Nous avons de l'espoir pour l'avenir. Heureusement, Dieu ne permettra pas que l'humanité se détruise. Son intervention surnaturelle va sauver la terre. Elle va sauver, surtout, elle va sauver l'humanité. Elle va sauver l'humanité. Donc ce message unique de Dieu, c'est celui de l'évangile de Jésus-Christ, ce qui veut dire la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un avenir. Il y a un avenir pour chacun d'entre nous. Il y a un avenir pour toute l'humanité. C'est la bonne nouvelle de l'établissement du royaume de Dieu sur la terre et non pas restant dans les cieux. Le royaume de Dieu est proche. Jésus l'a annoncé. L'Esprit de Dieu nous incite à nous détourner de ce qui est charnel, de ce qui est ce que ce monde recherche en premier. La recherche égoïste du plaisir, un égoïsme qui n'engendre que la douleur, la misère et la destruction. Nous devons nous tourner vers la charité, vers l'amour de notre prochain, c'est-à-dire prendre soin de ceux qui nous entourent. Porter le fruit de l'Esprit, ce n'est pas se contenter d'attendre passivement l'avènement du royaume de Dieu, les bras croisés. Non, c'est plutôt de s'inscrire en formation, j'aurais tendance à dire. Mais pour se former à quoi, me direz-vous? Eh bien, pour apprendre à pratiquer dès à présent cette justice, cette voie divine, dans toutes ses pensées, dans toutes ses actions. Ce n'est pas que ce soit difficile, mais il faut d'abord cette connaissance, cette formation, afin de mettre en pratique tous ces changements d'attitude bénéfique. Ce sont les bons exemples de paix, de bien-être, dont notre pauvre monde a tellement besoin. Nous sommes les ambassadeurs du royaume, le royaume de Dieu qui s'en vient bientôt sur terre. Techniquement, que doit faire le chrétien? Quel est le bilan pratique pour chacun d'entre nous? À quoi se résume notre feuille de route? Dans l'épître de Paul, la première épître de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 5 et au verset 19, 1 Thessaloniciens 5, 19, l'apôtre Paul écrit aux chrétiens de Thessalonique les mots suivants. Il leur dit « N'éteignez pas l'esprit ». N'éteignez pas l'esprit. Il est possible d'éteindre l'Esprit Saint. Voilà ce que cela veut dire. Il est reçu, cet Esprit Saint, je l'ai dit, au moment du baptême, par immersion, après l'imposition des mains, oui, mais on peut le perdre, on peut l'éteindre. Donc faisons attention, nous devons évidemment maintenir le contact avec Dieu jour après jour. Nous devons prier Dieu, nous devons lui demander chaque jour davantage de son Saint-Esprit. Ce n'est pas que nous ne devrions pas avoir peur de le faire. N'ayons pas peur de le faire. Il n'y a rien de mal à demander à Dieu plus de son Saint-Esprit. Dieu ne s'en lasse pas. Il voit que nous voulons faire des efforts. Nous prenons soin de notre esprit humain, que nous habillons précisément du magnifique et glorieux Saint-Esprit de Dieu. Donc cette conjonction de notre esprit humain avec le Saint-Esprit qui vient de Dieu, nous permet d'agir, de changer nos vies, de permet de comprendre et puis de porter du fruit. Elle nous permet d'agir et d'en recevoir évidemment la récompense, d'être capable de produire pleinement, à maturité, ce fruit de l'esprit, ce fruit de vertu chrétienne que nous avons besoin de porter. Le Saint-Esprit donne gracieusement, exactement, vous savez, quand nous prenons soin de nous chaque jour, nous brossons les dents pour avoir une bouche fraîche, nous prenons une douche, nous prenons ensuite des vêtements propres, nous ne voulons pas offenser notre prochain que nous allons croiser pendant la journée. Et évidemment, eh bien, de même, nous demandons à Dieu tous les jours, humblement, dans notre prière matinale, de nous revêtir de son Saint-Esprit pour lui rendre gloire, pour lui rendre honneur, pour être sûr que nous n'allons pas passer la journée à l'offenser par un comportement contraire à la voix de Dieu, en portant eh bien, des comportements charnels, que d'ailleurs Paul cite, j'y reviendrai. Je peux vous garantir que si nous faisons cela tous les matins, si nous prions tous les matins, la première chose, eh bien nos journées chrétiennes seront, croyez-moi, en moyenne, bien supérieures, beaucoup plus heureuses à ce que nous avons ou nous avions l'habitude de vivre. Elles seront beaucoup plus faciles. Dieu veut nous aider. Il est notre Père suprême. Il siège sur le trône de tous les univers, l'univers visible et l'univers invisible. Nous ne pouvons pas nous permettre de prendre son Saint-Esprit à la légère ou son Saint-Esprit pour acquis. Ça y est, nous l'avons, c'est fait, nous sommes chrétiens. Il nous faut prendre soin de nous-mêmes, il nous faut nous tester, savoir quel genre de fruits nous portons. Est-ce que nous portons des fruits charnels ou est-ce que nous portons des fruits saints, des fruits qui littéralement aident les autres, non pas des fruits égoïstes, mais des fruits qui sont littéralement au service des autres, au service de notre prochain. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, la gentillesse, 9 caractéristiques du fruit de l'esprit. Toutes ces choses, nous devons les porter. Porter du fruit de l'esprit, porter les 9 caractéristiques du fruit de l'esprit, ou les 9 fruits de l'esprit, cités par Paul dans son épître aux Galates, c'est ce que Dieu veut voir chez nous. Et il veut voir ces choses en nous. L'apôtre Pierre, de son côté, je le disais, parlait dans sa seconde lettre d'une production de fruits spirituels, lui aussi. Il a mentionné une liste, mais il les mentionne en succession. Il commence par la foi, et puis il se dirige vers l'amour. Il fait l'inverse de Paul, en quelque sorte. Paul commençait par l'amour, Pierre termine par l'amour. Voici ce qu'il écrit dans cette lettre. Il y est question, non pas du fruit de l'esprit, comme l'épître de Paul aux Galates, bien qu'on pourrait considérer cela comme le fruit de l'esprit, mais il parle plutôt de vertu chrétienne. En tout cas, nous pouvons le comprendre comme tel. C'est la même chose, en fin de compte. C'est juste une question d'appellation. Mais dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 6, il y a deux visions différentes, hein, celle de Paul et celle de Pierre. Simplement, les deux sont inspirées par Dieu, elles sont complémentaires. Et d'ailleurs, elles s'entrecoupent, puisque nous avons des choses qui nous sont dites et qui, dans les deux cas, les mêmes vertus chrétiennes, les mêmes fruits de l'esprit. 2 Pierre, chapitre 1, et au verset, allons plutôt au verset 5, non, commençons plutôt au verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés à sa propre gloire et par sa vertu. Verset 5, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Et il continue en disant, à la vertu, donc la vertu chrétienne, la connaissance. C'est exactement ce que nous venions d'évoquer dans les écrits de Paul, fuir la nature charnelle et égoïste et revêtir l'Esprit de Dieu pour porter du fruit spirituel. Comment ? Par la connaissance de Jésus. Autrement dit, penser comme il pensait, vivre comme il vivait et agir comme il agissait. Nous revêtir de ses pensées d'amour et de charité et puis porter de ce fruit. Mais que dit-il ensuite, verset 5? À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi à la vertu la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi à la patience à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. Donc on voit une liste différente de celle de Paul, présentée dans un ordre, on va dire, différent. Il y a de la recherche de la part de Pierre, simplement ici, et on peut expliquer d'ailleurs cela. Il s'agit de porter du fruit, le fruit du travail chrétien. Parfois, ces vertus, donc, je le disais, elles se recoupent, elles se rejoignent, elles rejoignent ce que Paul a déjà mentionné, donc, mais simplement, la perspective de Pierre, elle, est différente, son ressenti personnel est différent. N'oublions pas qu'il écrit sous l'inspiration de Dieu, lui aussi. Donc, il y a beaucoup à glaner ici, dans ces versets, en termes d'études bibliques. Par exemple, pourquoi Pierre parle-t-il de joindre telle vertu à telle autre? Pourquoi fait-il cela continuellement au travers de ces lignes? Il passe ainsi d'une vertu à l'autre. Il y a une logique dans tout cela. Et puis, il en arrive à la piété. Qu'est-ce que la piété? C'est une vertu chrétienne fondamentale. C'est le respect et la crainte de Dieu. Je crois que cela ne pose aucune difficulté en termes de compréhension. Pour terminer, l'apôtre Pierre nous encourage à faire preuve de diligence pour répondre à l'appel de Dieu. En effet, grâce au Saint-Esprit de Dieu, une fois engagé dans ce processus de conversion, avec le repentir, puis le baptême par immersion, avec l'imposition des mains, nous recevons en nous le Saint-Esprit de Dieu. C'est alors que nous pouvons enfin commencer à porter à maturité le fruit des vertus chrétiennes dont il est question dans ces versets. Cela prend du temps. Cela prend du temps. Mais tous ces domaines de croissance chrétienne nous donnent maintenant l'assurance que nous allons premièrement porter du fruit et deuxièmement plaire à Dieu. La connaissance, la maîtrise de soi, la patience, la piété, l'amitié fraternelle et finalement l'amour. Je résume pour conclure. Tout au long de la Bible, nous sommes exhortés à croître et à porter du fruit pour Dieu. De quels fruits avons-nous parlé? Premièrement, des fruits de justice. Soyons justes envers nos proches, nos familles, envers ceux dont nous avons la charge. Il nous faut aussi porter, deuxièmement, du fruit de repentir. Il nous faut changer d'attitude. C'est le processus de toute une vie. Cela ne va pas arriver en une semaine. Nous sommes tous pécheurs. Il nous faut demander régulièrement pardon à Dieu, comme nous pardonnons à ceux qui nous offensent. Et puis lui demander aussi le don de repentir. Et enfin, troisièmement, demandons régulièrement à Dieu de nous aider à porter le fruit de l'Esprit et le fruit des vertus chrétiennes. Car, dit Pierre, en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée.